changer, afin, Seigneur, de nous amener, Seigneur, à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. À toi la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Esther au chapitre 4. Esther au chapitre 4, on peut commencer à partir du verset 1er. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les acceptait pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi le rend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « N'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc nous revenons au verset 14 où Mardoché parle. Il dit, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Voilà la parole du Seigneur. Et nous situons un petit peu le contexte. Le roi Assuérus, à l'époque, met au pouvoir Aman, qui était comme le premier ministre. Et Aman lance un édit, il lance comme une circulaire en disant que tous les hommes du pays doivent se prosterner devant lui, doivent l'adorer. Et les Juifs refusent cela, dont Mardoché, qui est le porte-drapeau refuse de se soumettre à cet ordre. Et Mardoché montre sa tristesse. Il va jusque devant le roi en manifestant son indignation. Et comme nous l'avons lu, cet acte qu'il fait pouvait le faire mourir. Et tout cela arrive aux oreilles d'Esther. Esther entend ce qui se passe et elle envoie quelqu'un pour demander « Mais qu'est-ce qu'il veut, Mardoché ?» Mardoché envoie le message pour dire « Voici ce que Aman a décidé contre tous les Juifs. » Et il dit à Esther « Sache que toi aussi, tu es concerné par ce message qui a été envoyé par le roi. Alors, ne t'imagine pas que si toi, puisque tu es dans la maison du roi, ne t'imagine pas que toi, tu auras la vie sauve. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Esther prend la décision d'aller voir le roi. Elle prend la décision d'aller rencontrer le roi pour parler en faveur du peuple d'Israël. Et cette décision qu'elle prend, c'est une décision qui est difficile parce que, comme on a lu, ça pourrait donner la mort. Elle-même, elle dit, ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé, que je ne suis pas entré dans la cour du roi. Donc, le fait qu'elle accepte cette mission, elle accepte en quelque sorte de mourir. Elle accepte de mourir. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est dans les moments importants de la vie, parce que en tant que chrétien, en tant qu'humain déjà, de manière générale, tout humain a des décisions à prendre, a des choix à faire concernant ses études, concernant le mariage, concernant des engagements, parfois des crédits, parfois ce sont des choix, et ce sont des choix qui peuvent engager le présent, mais qui ont aussi un impact sur le futur, sur l'avenir. Donc si on prend ces choix à la légère, on risque de payer les conséquences, on risque de laisser les conséquences à ceux qui nous suivent aussi. Et la décision n'était pas facile. Et comme je disais, tout humain sur la terre a un choix à faire. Il a une décision à prendre en âme et conscience, en toute responsabilité. Et en prenant cette décision, il pèse le pour et le contre. Si je m'engage dans cette voie, quelles seront les conséquences? Si je ne m'engage pas, quelles seront aussi les conséquences ou les avantages, les inconvénients? L'humain réfléchit à cela. Et maintenant, nous rétrécissons jusqu'aux chrétiens. Tout chrétien, dans sa marche avec le Seigneur, il y aura des moments importants où il aura à faire des choix. Je ne dis pas le choix d'acheter une chemise, le choix d'acheter... Non, ça, ce sont des choix secondaires. Il y a des choix qu'on appelle des choix cruciaux. C'est ça le thème de notre exhortation ce matin. C'est dans le moment crucial. Ça veut dire quelque chose qui est décisif dans les dictionnaires. Quelque chose de crucial, ça veut dire quelque chose qui est fondamental. Donc si on ne fait pas la chose, on passe à côté de quelque chose d'important. Et la question c'est, dans les moments cruciaux que nous pouvons avoir, que Dieu permet, quelle est notre attitude? Quelle est la réponse que nous donnons? Puisque si nous sommes enfants de Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Et quand il le permet, c'est pour que nous puissions prendre une décision. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire à prendre la bonne décision. Et quelquefois, cette décision va nous amener à quoi? À perdre nos intérêts, à mourir, c'est ça? Parce que Esther a pesé le pour et le contre. Et elle dit, bon, si je le fais pour Mardoché parce que je l'aime bien, c'est mon peuple, mais il y a le risque de mourir aussi. Il y a le risque de perdre ma vie. Il y a le risque de perdre tous mes avantages. Et en pesant le pour et le contre, comme c'était une femme qui aimait Dieu, et c'est ça que Mardoché lui rappelle, Mardoché lui dit, mais Esther, mais qui sait si là où tu es là, c'est Dieu qui t'a placé à cet endroit-là. Alors la réflexion d'aujourd'hui, c'est de nous dire, qui sait si nous sommes dans une certaine famille, c'est Dieu qui nous a placés. Pour qu'un jour nous puissions prendre des décisions. Parfois, ces décisions seront des décisions qui vont à contre-courant. Tout le monde dit c'est comme ça. Toi, tu dis non, moi je suis chrétien, je ferai autrement. Il y a une pression et nous allons voir ça tout à l'heure. dans la vie de chaque homme, il y aura des temps où il devra prendre des décisions. Est-ce que je suis le Seigneur? Est-ce que je m'engage à renoncer à mes avantages à moi pour suivre Dieu? Est-ce que je veux décider pour faire plaisir à mon père, à ma mère, à mes oncles? Ou est-ce que je veux décider pour être en accord avec le Seigneur? Les moments cruciaux. Dans le moment crucial, quelle est la décision que tu prends? Lorsque nous avons vu, pour certains, mais on va faire un petit rappel, on a étudié les héros de la foi dans Hébreux 11. Et il nous avait été dit, en tout cas moi c'est la phrase qui m'a touché, il avait été dit une chose, ces héros de la foi, ce sont des gens qui n'ont pas été infaillibles, loin de là. Ils ont eu des faiblesses, ils sont tombés, ils ont péché aussi, certains ont péché. Mais pourquoi ils ont été qualifiés d'héros de la foi? Parce qu'à un moment donné, là où Dieu les attendait, ils ont manifesté la foi. À un moment donné, à un moment crucial de leur marche avec Dieu, ils ont dû faire le choix de suivre Dieu. On peut prendre des exemples. On prend l'exemple d'Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi. Dieu lui fait une promesse. Dieu lui donne même cette promesse qu'il a faite. Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah lui dit, va prendre ta servante Agar. Peut-être que cette promesse va s'accomplir par la servante. Abraham est parti, il a fait cela. Mais cet acte qu'il a fait n'était pas la volonté de Dieu, parce que Dieu lui-même lui dit, il dit non, le fils que je t'ai promis, ce n'est pas lui. On voit l'exemple de Moïse. Moïse a tué un Égyptien. Mais lorsque Dieu l'attendait dans des actes précis, Moïse a donné la réponse qu'il fallait. Le moment crucial, quand il arrive, quelle est la réponse que tu donnes? Comme on a dit, Dieu ne cherche pas les hommes qui sont forts par eux-mêmes, parce que sinon Dieu n'aurait même pas à travailler avec eux et eux-mêmes n'auraient même pas besoin de Dieu parce qu'ils sont forts. Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons des difficultés. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Et il y a des moments précis, lorsqu'il se révèle, lorsqu'il y a une situation, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des positions à prendre. Il y a des décisions à prendre. C'est cela le moment crucial. On se rappelle, toujours dans Hébreux 11, on parle de qui? On parle de Rahab, la prostituée. Moi, cet exemple, ça m'a toujours touché. Je me dis, mais la grâce de Dieu, une femme prostituée. Et la Bible dit qu'à cause du fait qu'elle ait reçu les espions, dans Hébreux 11, elle a été considérée comme juste. Puisque l'acte qu'elle a fait est un acte de foi. Ce n'était pas des hommes parfaits, c'était une pécheresse. On a l'exemple de David qui est cité aussi, de Gédéon lorsque Dieu l'appelle pour faire la mission. Gédéon a peur, il dit, regarde, ma famille est la plus petite de Manassé, regarde Seigneur. Ce n'était pas de surhommes, c'était des hommes comme moi, comme nous tous qui sommes là. Mais pourquoi Dieu a qualifié qu'ils étaient héros? Parce que au moment de faire des choix importants dans la vie, ils ont fait ces choix-là. Comme j'ai dit, il y a des choix secondaires qu'on peut faire, mais il y a des choix qui sont fondamentaux, qui sont décisifs. Et quand ce moment-là se manifeste, quelle est la réponse qu'on donne? Et on va donner des exemples, des moments cruciaux qui peuvent paraître petits, mais je pense que ça va nous parler à tous. C'est dans ces moments-là qu'on voit qui est véritablement chrétien, qui a donné sa vie au Seigneur. C'est dans ces moments-là, lors de cette décision-là, on voit qui appartient à Dieu et qui ne l'appartient pas. Nous lisons Luc au chapitre 9. Luc 9. Luc 9 à partir du verset. On peut lire au verset 57 jusqu'au verset 62. Luc 9, 57, 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Seigneur, je te suivrai. Je te suivrai, Seigneur. Permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. » Nous tournons quelques pages, nous allons au chapitre 14. Chapitre 14, à partir du verset 16. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Amen. Alors, nous avons vu des personnes qui décident de suivre le Seigneur. Et lorsque le Seigneur maintenant les appelle, chacun donne ses raisons. L'autre dit, « Maître, Seigneur, je viens d'acheter un champ et je vais essayer cela. » L'autre dit, « Maître, je viens de perdre mon père, permets que j'aille d'abord faire tout ce qui est nécessaire pour les obsèques et puis je reviendrai. » L'autre dit, « Je viens de me marier. » Voilà l'excuse qu'il donne. Alors, les moments cruciaux, c'est quoi les moments cruciaux? C'est l'exemple qu'on a lu. Au moment des mariages, c'est là qu'on voit parfois l'attitude de ceux qui sont véritablement chrétiens et de ceux qui ne le sont pas. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes d'accord. Amen. Nous sommes d'accord. Mais en tant que chrétien, il y a un témoignage à avoir, nous, en tant que chrétiens. Je me rappelle lorsque je me suis marié, lorsque j'avais une réunion avec un oncle qui est ici à Rouen, eh ben, il était catégorique. En disant, on fera comme ça. Écoute, moi, c'est mon mariage. Moi, j'ai décidé qu'il n'y ait pas d'alcool, qu'il n'y ait pas de la musique du monde. Voilà, c'est ma décision à moi. Je dis, ce sont des exemples concrets, mais petits. Mais en réalisant cela, on se dit, oui, effectivement, c'est dans les petites choses que Dieu nous attend. C'est dans ces choses-là que Dieu attend le témoignage. Moi, j'ai dit non, en tout cas, moi, je suis chrétien, je ne veux pas participer à cela, et c'est mon mariage. Voilà, donc je veux que les choses... Pourtant, connaissant cette personne-là, je me suis dit... Déjà, dans la tête, je me suis préparé en me disant, ah, ça ne passera pas. Ça sera un sujet de discorde. Mais en priant, Dieu s'est manifesté. L'homme qu'on connaît, costaud, eh ben, il s'est soumis. Il s'est soumis. Pas à moi, mais il s'est soumis à Dieu. Mais il a fallu prendre une décision. C'est ça les moments cruciaux. Comme je dis tout à l'heure, on est tous, on parle, on aime le Seigneur, on aime. Oui, il y aura des moments concrets qui montrent qui est de Dieu ou pas. Il y aura des moments comme c'est écrit dans Malachie, où on verra la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas dans les attitudes. Il y a des gens, on parle de mariage, mais l'attitude comme les païens. On se casse la tête, on va, il faut une tenue pour ci, la mairie, il faut une tenue pour là, il faut une tenue. Non! Ça, c'est des choses liées à l'ancienne nature, à la vie d'autrefois. C'est dans des moments comme ça, des moments cruciaux, qu'on voit qui est qui. On se dit, ah bon? Telle sœur, je pensais qu'elle était simple. Mais on se rend compte que le jour du mariage, elle a tellement décidé, elle s'est dit, non, là, je vais cartonner ce jour-là. C'est mon jour, comme beaucoup disent. Or, celui qui est chrétien, il a appelé à vivre aussi pour manifester la gloire de Dieu, pour témoigner aussi de la gloire de Dieu. Lorsque nous avons cette attitude-là, les païens qui nous regardent, ils se disent, mais finalement, nous sommes pareils. On a lu, l'autre dit, laisse, je vais aller enterrer mon père. Le Seigneur n'est pas contre cela. Et Jésus dit une phrase, il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Est-ce que le Seigneur veut dire, bon, abandonne ton père, laisse-le et... Non! Laisse les morts enterrer leurs morts, ça veut dire, il y a des gens, lorsqu'il y a des obsèques qui sont professionnels, pour des cérémonies, pour faire des choses, on arrive, réunion de famille, il faut boire dans une coupe, il faut cracher par terre, c'est à ces moments-là, les moments cruciaux, c'est ça que j'ai appelé moments crucial, des moments déterminants où tu dois prendre une décision, dire, bon, là, on a fait le tour, là, ça arrive à mon tour, je dis non, puisque moi, je suis chrétien. Et comme on a dit, l'exemple d'Esther, cette décision-là peut nous amener à mourir. Peut-être pas physiquement, mais en tout cas pour Esther, c'était le cas, c'était physique. Mais pour nous, ça sera quoi? Tu seras rejeté. On va te dire, mais c'est pas possible. Tu déshonores la famille. Regarde, il n'y a que toi, le mouton noir. Il n'y a que toi qui contredis les ordres de la famille. Non. Le moment crucial, quelle est la décision que je prends? Et celui qui est de Dieu, il va refuser à s'associer à des cérémonies parfois liées à la sorcellerie, des cérémonies parfois qui ramènent des esprits de mort. Et c'est dans des moments comme ça, comme j'ai dit, des moments importants de la vie d'une personne, parce que perdre un proche, perdre son père, comme lui dit, comme cet homme dit, ce n'est pas facile. C'est quelque chose de difficile. Mais c'est dans ces moments difficiles-là qu'on voit aussi celui qui aime Dieu. Dans ces moments difficiles qu'on voit aussi celui qui aime Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la souffrance. Il y a la souffrance qui est là. Mais on se dit, bon, puisque j'ai choisi Dieu, Seigneur, console mon cœur parce que je suis triste. Mais que ta volonté soit faite et on continue la marche. Combien, lorsqu'arrivent de telles situations, ils se rebellent après Dieu. Je me rappelle lorsque on m'a appelé pour m'annoncer la mort de mon père, on était en délivrance. Presque 4 heures de délivrance, le téléphone sonne, ça insiste. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, je dis, bon, je vois que c'est un ami d'enfance très proche. Je dis, mais comme il insiste comme ça, je vais répondre pour entendre ce qu'il a à me dire parce que ça doit être grave. Et je prends le téléphone, je sors, il me dit mes condoléances. Je dis, mais de quoi tu me parles? Moi, j'ai parlé avec mon père il y a 3 jours. Et à ce moment-là, c'est difficile. Et c'était en pleine prière. Là, dans ma tête, là, je me dis, bon, je n'ai pas la force de retourner aller prier. Est-ce que j'abandonne? Je dis, bon. Mais en abandonnant, je laisse la personne comme. Je pense que la personne même ne s'est même pas rendue compte de ce qui s'est passé. C'est dans ces moments-là que le Seigneur nous attend. La mauvaise décision aurait été de dire, bon, là, c'est trop dur, je vais rentrer chez moi. Mais l'autre, la personne est là. Elle attend la prière, elle a besoin de prière. Et même en rentrant chez moi, est-ce que ça allait apaiser la souffrance, la douleur? Qu'est-ce que ça allait changer en réalité? Ça n'allait rien changer. Ça n'allait rien changer. Je suis retourné quand même. Prier, même si dans ma tête, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais on a fini la prière. Et après, les bien-aimés sont venus, ils m'ont soutenu. C'est cela. Je ne dis pas qu'on doit tous faire la même chose, non. Mais je dis, il y a des moments important dans la vie, où le chrétien devra prendre des décisions. Comme j'ai dit, le moment de mariage, le moment de décès, où il y a des cérémonies, où on dit, on se retrouve tous à l'église Saint-Pierre, Sainte-Thérèse. Tu arrives, tu sais que c'est mauvais d'entrer là-bas, mais tu entres, tu dis, bon, faut pas choquer les gens. Non. Non. Le Seigneur est clair. 2 Corinthiens 16, 14, il dit de ne pas se mettre avec des infidèles sous un joug étranger. Il dit, quel rapport, quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? toi-même qui dis aux catholiques que le catholicisme c'est mauvais, et bien quand arrive la situation, parce que quand c'est comme ça, il y a la pression, hein, il y a le chef de famille qui dit, allez, tous on se retrouve à tel endroit, tu n'as même pas à discuter. Je pense qu'on sait comment ça se passe. Tu n'as même pas à discuter. Parfois tu es le plus jeune même. Mais c'est dans ces moments-là qu'on dit, moi je compatis, je connais la souffrance, mais puisque j'aime le Seigneur, je vais vous attendre à l'extérieur. C'est à ces moments-là. Là, on regarde à gauche, on regarde à droite, il n'y a personne, on se dit, ah, bon, c'est pas grave, j'y vais, je ferme les yeux. Non, non, c'est dans les moments cruciaux que Dieu nous attend. Amen. C'est dans les moments importants. Quelle est ta décision? Quelle est la décision que tu prends? Sachant que cette décision-là peut t'amener à mourir. Sachant que cette décision-là peut t'amener dans des problèmes. Mais tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Et les moments cruciaux, l'autre dit, j'ai acheté un terrain, j'ai une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Les moments de bénédiction, comment nous gérons cela? Moi le premier, comment nous gérons cela? On se rappelle de Saül. Samuel vient le voir dans 1 Samuel 15, il lui dit, mais souviens-toi de ce que tu étais autrefois. Tu n'étais rien, Dieu t'a établi sur ton peuple, sur son peuple. Prends garde de désobéir aux ordres de l'Éternel. Au verset 15, au chapitre 15, verset 1er. Et plus bas, qu'est-ce qu'on voit? Que Saül a désobéi. Saül a désobéi et il dit à Samuel, il dit, je me suis fait violence parce que le peuple partait, il fallait que j'offre un sacrifice. Et Samuel lui dit, mais souviens-toi, tu n'étais rien. C'est pour le dire quoi? Parfois, il y a des bénédictions qu'on reçoit de Dieu, si on les gère mal, ces bénédictions peuvent nous sortir du plan de Dieu. Il y a des gens qui ont prié, qui ont demandé un enfant. Et aujourd'hui, quand le Seigneur t'attend quelque part, tu dis, ah, Seigneur, l'enfant, j'ai un mari, j'ai un mariage, j'ai un mari, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai... Voilà. Dans ces moments de bénédiction-là. Ce sont les moments qui paraissent petits, parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais quand on fait le bilan, on calcule, on se dit, finalement, c'est vrai, ce sont des choses qui paraissent petites autour de nous, dans notre vie de tous les jours. Mais c'est dans ces choses-là que Dieu nous attend. Quelle est notre réaction? Quelle est notre position? Est-ce qu'on ferme la bouche, on se fond dans la masse? Ou est-ce qu'on dit, non, moi, je refuse. Dieu avant tout. C'est Dieu qui m'a béni. Et je veux glorifier Dieu. L'autre dit, voilà, j'ai mon champ, j'ai mon terrain. Et le Seigneur voit ça, il est triste. Il est triste. La question, c'est dans les moments importants, dans les moments cruciaux. Les moments cruciaux, ce sont les épreuves auxquelles parfois nous sommes soumis. Quelle est ma réaction? Il y a une voix qui vient te dire, où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Hier, tu avais des problèmes. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Regarde encore, demain, tu auras des problèmes. Où est-ce qu'on se dit, non, Seigneur, même si j'ai des problèmes, je décide de te suivre. Je décide de marcher avec toi. Même si, Seigneur, j'ai prié, je n'ai pas vu que les choses ont changé. Je crois que toi, tu es tout-puissant pour changer les choses. C'est cela. Alors dans la vie de tout homme, de tout chrétien, de tous autant que nous sommes, il y aura des temps où il faudra prendre la décision. Il y en a pour certains, tu écoutes la parole de Dieu. Tu viens tous les dimanches. Tu es régulier même. Parfois ponctuel. Et le Seigneur te parle, mais dans le cœur, tu retardes toujours. Tous ces moments-là où Dieu nous parle, où Dieu te parle, ce sont des moments cruciaux. Alors, quelle est la réponse que tu donnes à ce moment-là? Est-ce que tu te mens à toi-même? Est-ce que tu te dis, bon, c'est pas grave, je fais un petit compromis, je vais me repentir après? Est-ce que tu te dis, je suis trop jeune pour me convertir? J'ai encore la vie devant moi. Mais nous voyons ce qui se passe. Hier, ça s'est passé à Paris, je crois, 8 enfants qui fêtaient un anniversaire. En région parisienne, la foudre est tombée, 4 frappés par la foudre. Il y en a un qui est en arrêt cardiaque, qui est à l'hôpital. Des petits enfants. Et la Bible dit dans Hébreux 3, 7 au verset 15, c'est la même chose. Il dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quelle est la réponse que tu donnes à ce moment des rencontres avec Dieu? Ce moment important, ce moment décisif, quelle est la réponse que tu donnes? Est-ce que tu es comme ces gens qui disent, maître, laisse-moi d'abord faire ceci, laisse-moi d'abord faire cela? Quelle est la réponse? Dieu nous attend dans des moments précis. Nous lisons Daniel. Daniel, chapitre 3. Daniel au chapitre 3, nous commençons à partir du verset 14. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas les statues d'or que tu as élevées. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant son regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e homme ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha, prenant la parole. Il dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes et les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les atteignait pas. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Voilà un autre exemple. Il est écrit que le roi, nous n'avons pas lu cela, érige, il fabrique une statue d'or, grande statue. Il dit que tout le monde doit se prosterner comme lui. Il se prosterne devant cette statue, ce faux Dieu. Il dit que tout le monde le fasse. Mais nous avons lu l'histoire de ces hommes qui ont refusé de se prosterner. Parce que se prosterner devant ce Dieu-là, c'était comme adorer ce Dieu-là. Et renier leur propre Dieu. Ils se sont dit non. Et le message arrive au roi. Le roi, comme nous l'avons lu, rempli de fureur, de colère. Il pose la question. Il dit, est-ce des propos délibérés, ce que j'entends? Moi, je donne l'ordre. Mettons-nous dans le contexte, bien-aimé. C'est une monarchie, si je peux dire, entre guillemets, absolue. Ce n'est pas comme en Angleterre où la reine, elle règne tout simplement. Elle n'a aucun pouvoir véritable. Ou même si elle a un pouvoir, ce sont des démocraties. Donc on peut quand même se moquer d'elle. On voit en France, Hollande, comment on se moque de lui. On parodie même. Sarkozy, quelqu'un qui l'insulte même. Là, ce n'était pas le cas. C'était de vraies monarchies. Un peu comme, si on peut prendre un exemple aujourd'hui, le Maroc. Où partout où tu vas, c'est la photo du roi. Et dans la Constitution, c'est dit que tout sujet marocain est un sujet du roi. Monarchie absolue. Et là, c'est encore au-dessus, un cran au-dessus. Le roi, ce n'était pas n'importe qui. Rien que de l'approcher, s'il ne t'a pas invité, on te tue. Comme on voyait parfois dans les films, le roi qui jette un regard, ça veut dire tuez-le, juste par le regard. C'est ça le contexte, le décor. Et ces gens arrivent devant le roi est déjà en colère. Il dit, est-ce vrai que vous avez refusé de vous prosterner devant mes statues? Ces hommes ont compris que là, c'était un combat. Un combat qui les engageait pas seulement eux, mais qui engageait Dieu. Et puisqu'ils savent que leur Dieu est le Tout-Puissant, ils se sont dit, bon, de toutes les façons, notre Dieu va gagner. Mais ils répondent en disant, s'il arrive que notre Dieu ne nous délivre pas, s'il arrive qu'il nous laisse mourir, sache que jusqu'au bout, nous refusons de nous prosterner devant ta statue. Le moment crucial en tant que chrétien. Dans notre marche avec le Seigneur, nous aurons des choix à faire. En âme et conscience, peut-être que ton voisin ne le sait pas. Peut-être que ton mari ne le sait pas, ta femme ne le sait pas. Mais toi, avec Dieu, tu sais que tu as un choix à faire. Et c'est à ce moment-là que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu savait qu'Abraham l'aimait. Dieu savait qu'Abraham avait foi en lui. Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. À plusieurs reprises, Genèse 12, sors de ton pays. Va là où je te montrerai. Il se retrouve avec Lot, il se sépare. Mais Dieu a permis quand même un moment où Dieu lui dit, Abraham, il dit oui, Éternel. Abraham, oui. Abraham, il dit, j'écoute. Ton fils que tu aimes, prends-le et va, tu vas me l'offrir. Dans la marche avec Dieu, il y a des moments qui sont importants. Le fait de tuer son fils, c'était se tuer lui-même. Donc pendant qu'il partait avec son fils, dans sa tête, lui-même était déjà mort. Mais il avait une espérance, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Voilà pourquoi le fils lui pose la question, il dit, mais père, il y a le bois, il y a tout ce qu'il faut pour le feu. Mais l'animal, il est où? Il dit, Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira. Et c'était ça l'attitude de ces trois hommes. Ils savaient qu'en persévérant, ils allaient être tués. Combien n'auraient pas fait marche arrière à ce moment-là? Combien n'auraient pas fait marche arrière? Combien auraient fermé les yeux en disant, bon, allez, je fais et puis après je vais arranger avec Dieu? Non. Non. ils sont dit, puisque notre Dieu est plus grand que cette statue, nous refusons de nous prosterner devant cette statue. Nous choisissons quand même notre Dieu. Nous choisissons la fidélité à Dieu. Nous choisissons la foi en Dieu. Voyons dans leur réponse, est-ce qu'ils avaient comme nous aujourd'hui l'espérance de la résurrection? Est-ce que pour ces hommes c'était clair? On ne sait pas. Peut-être que Dieu s'est révélé à eux. Mais en tout cas, nous aujourd'hui, nous avons les choses clairement écrites. Tout est écrit. L'apôtre Paul nous dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables. Donc il y a une certitude. Jésus lui-même dit, je vais vous préparer des places. Mais ces gens-là, ils n'avaient pas toutes ces informations que nous avons aujourd'hui. Mais ils avaient une espérance. Comme c'est écrit dans Hébreux 11, que ces gens sont morts, ils ont eu des promesses qu'ils n'ont pas vues physiquement, mais ils les ont saluées de loin. Il y avait une espérance que Dieu va agir, il va finir par agir. Et c'est cela. C'est dans les moments cruciaux, comme j'ai beaucoup aimé le témoignage du diacre Stéphane tout à l'heure. Il y a pression et pression. Comme je disais tout à l'heure, il y a pression et pression. Tu es là, ton chef te dit, dis au client ceci ou cela. Tu regardes à côté, tu regardes à droite, à gauche, il n'y a personne. Allez, tu balances ta petite phrase. Là, parfois, même le client n'a même pas entendu la phrase. Mais le bien-aimé a témoigné en disant, lorsque le patron l'envoie, il a dit non au patron, il est allé dire la vérité au client. Il est allé dire la vérité au client, dire voilà, il y a ceci, il y a cela, je ne sais pas c'est quoi le tenant et les aboutissants de l'histoire, mais c'est dans ces moments-là que Dieu nous attend. Pourquoi? Parce que c'est par nous qu'il va démontrer aux autres que c'est lui qui est Dieu, qu'on n'est pas obligé de mentir, on n'est pas obligé de se compromettre, on n'est pas obligé de faire de fausses alliances pour se sentir bien en paix et ensuite pour que Dieu agisse. Non. Je ne vois pas là où Shadrach, Meshach, Abednego ont évangélisé le roi Nabucodonosor. Je ne vois pas. Mais comme c'était une guerre, de Dieu, le fait qu'ils aient tenu ferme jusqu'au bout, il a compris, il a dit, ah oui, je comprends. Leur Dieu est le véritable Dieu. C'est cela. Et c'est pour nous dire aussi, dans ces moments-là, lorsque nous prenons des décisions qui peuvent nous faire souffrir, Dieu va manifester aussi sa gloire autour. Parfois, il y a des gens qui savent que nous sommes chrétiens, ils le savent. Mais c'est bien. Il y a aussi beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens, catholiques. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Et c'est dans des moments comme ça, on te dit « mens », tu dis « non, moi, je ne mentirai pas ». On te dit « change de chiffre », tu dis « non, moi, je ne participe pas à cela ». C'est dans ces moments-là que les faux là, qui sont autour vont voir, ils vont se dire « ah oui, lui, il est vraiment différent de nous ». Lui, il a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Et c'est là qu'ils vont commencer à s'intéresser. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. Mais c'est dans les choix de tous les jours qu'ils vont se rendre compte que finalement, le catholique et l'autre, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ils vont se rendre compte que le musulman qui dit croire en Dieu et un tel, finalement, ce n'est pas la même chose. Parce que l'autre, il s'énerve, l'autre, il ment, l'autre, souvent, beaucoup fume, beaucoup manifeste la violence. Il va se dire, mais finalement, il y a une différence. Et tout cela fera que la personne peut maintenant entendre ce qu'on a à lui dire. Ça ne veut pas dire que la personne va accepter le Seigneur, mais des choix que nous allons prendre, les décisions que nous allons prendre, ça sera une porte par laquelle Dieu va passer pour toucher aussi les autres. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 5, il dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Il dit que vos œuvres, que vos bonnes œuvres luisent devant tout le monde. Que les gens voient ça et qu'ils glorifient Dieu. Le roi a vu ça, il a vu le comportement de ces trois hommes, la foi qu'ils ont manifestée. Cette foi a déstabilisé le roi, il a eu peur. Et c'est lui-même qui dit, arrêtez le feu, allez, venez. Venez, je vois que votre Dieu est le véritable Dieu. Alors ne cherchons pas à tomber dans le compromis. Comme j'ai dit, il y a pression et pression. Ces hommes étaient soumis à une véritable pression. Et cette pression-là, aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi qui la vivent physiquement. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, on te dit Jésus ou l'islam. C'est une réalité. Mais ils choisissent le Seigneur. Dans le moment crucial, quelle est la réponse que tu donnes? Ils ont refusé de se prosterner devant des statues. Il y a certains à qui on parle, ils disent « Oui, mais ce n'est qu'une statue ». Comme je me rappelle, on a fait une étude biblique, il y a une personne qui a posé la question « Mais pasteur, si je suis invité ou bien dans une circonstance extraordinaire, on m'invite dans les bâtiments catholiques, moi je vais dans ces bâtiments-là, mais moi je n'adhère pas à cela, je ne me prosterne pas. Mais j'entre quand même pour faire honneur. Ah, faire honneur à qui? À la personne qui t'invite ou à Dieu? » Et la réponse qui avait été donnée, c'est que « Ok, donc, dans ton portefeuille, là, porte-monnaie, là, mets la photo d'une ex-copine que tu as eu autrefois. Et quand ta femme va voir ça, tu dis, oui, mais c'est juste une photo. C'est juste une photo. Moi, je n'ai rien, je n'ai pas de sentiment. C'est un exemple qui est similaire. Ceux qui disent, mais moi, je vais, mais moi, je ne me prosterne pas. Moi, je vais parce qu'on m'a invité. Ah, le pasteur a répondu, mets la photo de ta copine. Dis maintenant à ta femme, ouais, mais tu sais, moi j'aime bien les souvenirs comme ça. Moi je n'ai rien dans mon cœur. On va voir la réaction. C'était une réponse un peu en dérision, mais pour nous montrer que devant Dieu, non. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. C'est-à-dire que sa gloire, il ne donne à personne. Il ne partage pas sa gloire. Ésaïe 42:8, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donne pas la gloire aux hommes, ni aux idoles. On se dit, mais c'est rien, moi je ne me prosterne pas devant tout ça. C'était pour faire honneur, tout simplement, pour faire plaisir. Non. C'est le même exemple que celui-là. Les statues, ces hommes ont refusé, ils ont dit non. Aller dans ces endroits-là, c'est nous associer à un faux Dieu. C'est déshonorer notre Dieu. Et le jour où tu diras, je reviens encore, à ton cousin, à ton père, à ta mère, le catholicisme, c'est pas bon, il va te dire, ah bon, mais toi, tu étais venu chez nous, non? Qu'est-ce que tu vas dire après? Tu vas dire, donc, c'est exceptionnel. Là, il va dire, oui, moi aussi, exceptionnellement, Dieu comprend aussi ma situation. Non. À un moment donné, on prend une décision. La décision qu'on prend, on sait que ce n'est pas facile, mais Dieu va me soutenir. Le moment crucial, lorsqu'il arrive, quelle est ta réaction? Quelle est ta réponse? Quelle est ta réponse? On se rappelle lorsque le Seigneur parle dans Jean 6, du verset 60 à 66. Il dit, il faut manger son corps, il faut boire de son sang. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la foule qui était là, ils sont tous partis. Et le Seigneur se retourne et dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne partez pas aussi avec les autres? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Maître, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Lorsqu'on lit cette phrase-là, c'est quelque chose qui paraît simple, qui paraît facile. Lorsqu'on lit ce verset-là, on dit, c'est Jésus parlait de manière spirituelle. Oui, mais ces gens-là, ils avaient des familles. Ils avaient des femmes, ils avaient parfois des enfants. Ils avaient des connaissances autour d'eux. Ils avaient une culture juive, une éducation. Donc faire le choix de rester avec le Seigneur pendant ce temps-là, ça apportait aussi des conséquences dans leur vie. Ça apportait des conséquences. Voilà pourquoi Jésus leur dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas non plus? Ils disent, maître, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il y a des choix dans la vie. Il y a des décisions dans la vie qu'il faudra prendre. Et ces décisions, Dieu va permettre des situations, des moments fondamentaux, décisifs, pour qu'on prenne la décision. On dit non, moi, c'est le Seigneur que j'ai choisi. Ah bon? Eh bien, si tu as choisi le Seigneur, oublie-moi. On a vu les vidéos de Dini, la jeune fille qui a été chassée par sa famille, une étudiante. Là-bas, il n'y a même pas de bourse, il n'y a pas d'allocation, il n'y a rien du tout. Issue d'une famille musulmane pratiquante. Elle a choisi le Seigneur et son oncle lui dit à partir d'aujourd'hui, oublie-nous, pars. Et elle est partie. Alors le Seigneur nous parle aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si on a fait de mauvais choix autrefois, c'est fini. Non, si le Seigneur nous donne encore l'occasion aujourd'hui, voilà pourquoi il est écrit « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si hier tu as entendu, tu n'as pas répondu, tu as ajourné la décision, tu as voulu faire comme Pilate en te disant « Bon, moi, je suis neutre, ni pour ni contre, je me lave les mains. » Le Seigneur te dit aujourd'hui, prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux continuer à suivre le monde? Mais regardons le monde tel qu'il est. Regardons la France aujourd'hui, ingouvernable. Voilà, c'est ça que le monde promet. C'est ça que le monde donne. On est en plein état d'urgence. Donc, c'est-à-dire une situation de guerre, en quelque sorte. Mais regardons le pays tel qu'il est aujourd'hui. Avec les manifestations, les grèves, pénurie de carburant. Voilà. C'est ça que le monde donne. Or, le Seigneur, ce qu'il nous donne, c'est la véritable vie. Alors, il dit, pourquoi hésiter ? Viens à lui. Prends la décision. Suivant l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. À Gethsémané, c'était difficile. Luc 22. C'était une souffrance. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe, mais non ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Il dit, dois-je encore reculer ? Il dit, non. Père, c'est pour cette heure que je suis venu. Jésus a connu aussi. Un moment où il a dû faire un choix. Pourtant, il aimait son Père. Le véritable amour. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Mais il est arrivé dans Luc 22 à Gethsémané. Il a eu encore à faire le choix, à dire non, Père, non pas ma volonté, que ta volonté s'accomplisse. Et il est écrit qu'un ange est venu pour le soutenir. C'est cela. Dans ces moments-là, il faudra prendre la décision. Pour celui qui n'est pas converti. Le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit est là. Pour te conduire pour le reste de ta vie. Tu te dis, mais je veux devenir chrétien. Comment je veux faire pour abandonner ceci pour... Non, le Seigneur dit, ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas par tes forces. Dieu va te soutenir. Et pour nous qui avons des décisions à prendre ultérieurement, prochainement, le Seigneur nous dit aussi, il dit, comme mon fils Jésus, je l'ai soutenu, Dieu va nous soutenir aussi. Amen. Dieu va nous soutenir aussi. Mais il y a des choix à faire. Il y a des moments de décision, ce n'est pas la blague. Ce que Jésus vivait à Gethsémané, il est écrit, lorsqu'on lit la version de Matthieu, c'est écrit, à deux reprises, Jésus vient voir les disciples pour leur dire, mais priez pour moi. Voilà le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, avec toutes les capacités de Dieu, venir demander l'aide de ses disciples dans la prière, deux fois ou trois fois, je ne me rappelle plus, en disant, soutenez-moi, et il dort. Il part, il prie, il revient, il dit, soutenez-moi. Mais il est allé jusqu'au bout de sa décision. Alors, conclusion ou résumé, c'est que dans notre marche avec Dieu, il y aura des moments importants dans la vie. Il y aura des choix, des directions à prendre. Et ces choix-là, parfois, Dieu va les manifester dans notre vie de tous les jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, Les moments cruciaux, ce sont les mariages où on voit parfois le vrai visage des gens. On se dit, ah, tel frère était simple. Mais ce jour-là, on voit que finalement, cartonner pour cartonner. Les moments de décès où on doit rester sobre, confiance en Dieu, malgré la pression qui est autour. La famille dit, oh, allez, on va tous se raser la tête. On va tous s'habiller de telle manière. On va tous faire telle ou telle chose. Nous, on dit, en tout cas, je suis affecté autant que vous, mais moi, je fais le choix de m'abstenir de toutes ces choses-là parce que moi, je suis chrétien. Je suis la Bible. Voilà. Voilà. On se retrouve dans l'épreuve. Il y a la voix qui vient te dire, mais Dieu, il est où ? Job, au chapitre 2, la femme de Job. Tu restes intègre, maudit Dieu, meurs. Job a dit, tu parles comme un insensé. Nous ne sommes venus avec rien, et avec rien nous partirons. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Que ton nom soit béni. Il y aura des moments comme ça où on devra prendre la décision. On dit, est-ce que je recule ? Si je recule, voilà ce qu'on me propose. Si j'avance, je vais mourir. Eh bien, continuons à avancer. Et ce moment-là, on les aura dans la vie chrétienne, où il faudra faire des choix. Il faudra apprendre à renoncer à quelque chose. Où il faudra pardonner, parce que ça a trop duré. Le Seigneur te dit maintenant, est-ce que tu veux pardonner à un tel, quelle que soit la faute qu'il a commise. Est-ce que tu décides, c'est aujourd'hui. Il y aura des choix à faire. Il te dira, tu as entendu ma parole. Tu résistes. Mais moi, je t'aime et je veux te sauver. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu regardes à gauche, à droite pour dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Moi qui étais un moqueur, moi qui étais ceci, moi, tous, autant que nous sommes, nous avons tous des témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur te parle aussi. Il te dit aujourd'hui, c'est un moment crucial. Alors, ne t'endurcis pas. Ne résiste pas. Et pour nous autres, le Seigneur nous dit, comptons sur lui pour l'avenir, pour les choix à faire dans les jours qui vont venir. Si on a des doutes, disons, Seigneur, je ne comprends pas tout. Seigneur, je suis conscient que la direction dans laquelle je vais aller, je risque de perdre tous mes intérêts. Mais puisque toi, tu es tout-puissant, puisque toi, tu connais tout, tu sais tout, alors je te fais confiance à toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous prions pour que, Seigneur, ta parole, Seigneur, puisse agir dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que cette parole, Seigneur, nous amène, Seigneur, à méditer, Seigneur. Non pas, Seigneur, à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, ce n'est pas ce que tu veux, Seigneur. Mais à réfléchir, à méditer avec toi et à te faire confiance, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Lorsque ces moments vont se manifester dans notre marche de tous les jours, que nous puissions prendre exemple, Seigneur, sur Esther, sur Meshach, Shadrach, Abednego. Que nous puissions prendre exemple sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a dû faire le choix de te suivre. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides et que tu nous soutiennes, Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton esprit qui convainc nos cœurs, Seigneur. Merci pour ton esprit qui convainc nos cœurs. Même si, Seigneur, il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Tu as dit, Seigneur, dans Jean 12, 24, le grain de blé, S'il tombe à terre, il reste seul, il ne produit rien. Mais s'il tombe et qu'il meurt, il produit des fruits, il manifeste ta gloire. Et nous avons vu avec Shadrach, Meshach, Abednego, leur foi a produit même la conversion du roi. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Dans les moments cruciaux, Seigneur, à ne pas renier ton nom. À ne pas renier ton nom, Seigneur, devant nos familles, devant nos autorités, au travail. Nous prions pour que tu nous donnes la force, le front dur, Seigneur, pour dire la vérité lorsqu'on nous pousse au compromis. Nous prions pour que tu nous donnes la force, Seigneur, quelle que soit la pression. Parfois, il y a des pressions spirituelles, Seigneur, qui nous entourent, Seigneur, même dans nos familles. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la force de résister à tout cela. Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux, Seigneur, qui ne t'ont pas donné leur vie, Seigneur, qui hésitent encore, Seigneur, qui voudraient bien, mais qui, un coup, veulent de toi, un coup, sont tiraillés par le monde. Seigneur, nous prions pour qu'aujourd'hui, ils puissent prendre la bonne décision, Seigneur, de te suivre. Dans le nom de Jésus, merci de toucher nos cœurs. Merci d'agir par ton esprit. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.
Je voulais lire juste trois passages. Actes des Apôtres, chapitre 6.